retour gagnant, votre dernier rendez-vous tennis de la saison sur la chaîne YouTube d'Eurosport, sur HBO Max, vous en avez l'habitude. Et cette semaine, on a un invité exceptionnel avec nous sur le plateau de Retour Gagnant qui adore les émissions. Non, c'est pas Thomas Morel. Qui adore ce genre d'émission, n'est-ce pas, Gilles Simon?
J'adore, c'est pour ça que je viens à la dernière, juste.
Mais merci d'être là.
Bah, pas de souci.
Qu'est-ce qui t'a fait accepter alors?
L'envie de sortir de ma grotte, je sais pas.
Et avec Tom Morel qui sort de sa grotte.
Ouais, c'est les mêmes raisons. Ouais. Voilà, les mêmes raisons. J'ai vu un peu de lumière et puis Gilles, quand même, c'est pas mal ça.
Ouais.
Beau casting.
Beau casting. On va revenir, Gilles, sur ta carrière, sur ton profil de joueur, ton rôle de coach, aussi tes envies pour la suite et puis aussi ton regard sur le tennis actuel, le tennis français et puis le reste, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, ça doit te parler un petit peu.
Je regarde beaucoup.
Ouais.
Je suis dans ma grotte, mais je vois plein de trucs dans ma grotte.
Ah, et t'aimes bien encore regarder beaucoup de tennis?
Ouais, j'adore. J'aime bien ce sport. Pour ça que j'ai fait ça.
Ah, c'est pas mal comme sport. Je suis plutôt d'accord. Gilles, on rappelle que tu as pris ta retraite en 2022.
Ouais.
C'était il y a 3 ans. On va avoir une petite fiche pour résumer un peu le joueur que tu as été. Dans le top 10 mondial, évidemment, 6e en janvier 2009. Gilles Simon, c'est 14 titres en 22 finales, la Coupe Davis en 2017 avec l'équipe de France. 2 quarts de finale en Grand Chelem. En Australie en 2009, tu avais été battu par un certain Rafael Nadal. Je ne sais pas si tu connais.
Ouais, c'est souvent les mêmes. Hein.
Et à Wimbledon en 2015 par un certain Roger Federer qui a pas mal gagné là-bas aussi. C'est 2 finales en Masters 1000 quand même. Madrid 2008 où tu as perdu contre Murray et Shanghai 2014 où tu as perdu contre Federer. Là, c'est que des noms du Big Four. Ça pose son personnage. Là,
oui, mais en 2008, il fait finale contre Murray, mais il bat un certain Rafa Nadal à Madrid.
À Madrid.
Pour les plus jeunes, ce n'était pas le Madrid sur terre, c'était le Madrid sur indoor. Match de dingue, 7-6 au troisième, 8 points à 6 de mémoire. Il y a peut-être des balles de match de part et d'autre, mais enfin, oui. C'était complètement fou. Gilles, qui n'était pas réputé pour être celui qui tape le plus fort, il commençait à envoyer des avions longue ligne côté droit. Enfin, moi, c'est l'un de mes souvenirs préférés concernant Gilou. C'était sa meilleure année puisque ça lui permet d'être top 10, 6e mondial.
Et
cette année en
Masters.
2008, il bat Djokovic à Marseille, il bat Roger au Canada, il bat Rafa à Madrid, il rebat Roger aux ATP Finals.
Demi-finale, ouais.
Consécutivement, Djoko, Roger, Rafa. Bon, les années qui ont suivi, ça a été un peu plus délicat, mais on sait que ce sont des légendes. Mais voilà, grosse saison en 2008 où tu avais 23 ans, peut-être quelque chose comme ça.
Ouais, je suis né 84, ouais, ça doit être ça. ouais, non, c'était une grosse saison, mais justement, c'est ce qui va avec, c'est que je pense que la première victoire contre Novak, qui à ce moment-là, il est troisième, aide à gagner ensuite la suivante, etc. Et puis t'en gagnes une, puis tu gagnes une deuxième fois, et puis il y a un 0 qui se débloque. Et malheureusement, après, tu perds beaucoup, et puis parfois des matchs très accrochés, mais qui sont perdus. Et d'un coup, ça devient très compliqué, même sur certains matchs. Je pense notamment à la finale de Shanghai contre Roger, qui est une rare fois où dans notre confrontation, je me suis pas senti moins fort que lui du tout sur le terrain. J'ai servi pour le set au premier, j'ai des balles de 7, j'ai des balles de 7 au second, mais ça perd encore parce que tu as beaucoup
quoi,
perdu.
C'est quoi, 7-6,
c'est ça. Où tu perds avec... où tu sens que tu perds parce que tu as beaucoup perdu avant et que ça devient dur de le battre. Et que voilà, j'avais perdu une fois aussi en 5-7 en Australie, une fois en 5-7 à Roland contre lui. Alors après, il y a eu des matchs où il a gagné plus tranquillement, évidemment, aussi. Mais voilà, parfois, il faut arriver à en regagner un. Et c'est pas un hasard quand on en gagne un, qu'il y a un deuxième et un troisième, et puis qu'après, quand la série s'arrête, ça devient très compliqué de
relancer
l'arrêter.
La machine. C'est des joueurs qui transcendaient. Tu te disais, quand tu arrivais contre eux, je me sens capable de jouer à mon meilleur niveau.
Alors, je sais pas si c'est transcendé, mais disons que la logique, en fait, pour les affronter, avec ma personnalité, c'était plus simple parce que. C'est une condition en fait, on va les battre si on joue son meilleur tennis, donc on vient, on cherche immédiatement à jouer son niveau, à poser son meilleur tennis. Si on n'y arrive pas, c'est perdu. Si on y arrive, il peut se passer quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est là où j'avais quand même cette confiance en moi quand j'ai joué, c'est que je me disais, si je joue bien et que je joue à mon meilleur niveau, il y aura un match. Et c'est pour ça qu'il y a eu, même avec beaucoup de défaites, mais il y a eu très souvent match avec Novak. J'ai perdu beaucoup de 7-5 au 3ème. Et après, il m'a manqué à chaque fois cette confiance pour essayer d'aller finir les matchs. On parle de la demi du Masters contre Novak, où je perds 7-5 au 3ème, et j'en ai eu beaucoup aussi avec Novak, un 5-7 en Australie, un 7-5 au 3ème à Dubaï. J'ai servi pour le match à Monte-Carlo, 7-5 au 3ème, etc. Donc après, mais c'était déjà une chose d'arriver à discuter, en fait, à faire jeu égal pendant une grande partie du match. Et après, il faut finir. Et ça, c'est encore plus dur. Et c'est souvent là où moi, ça a manqué aussi à la fin.
Eux, ils savaient que quand ils allaient t'affronter, il y avait aussi cette dimension tactique. Tu les connaissais extrêmement bien. Vous connaissiez extrêmement bien. Tu as eu cette étiquette de tacticien pendant ta carrière, cette idée de faire dérailler un peu les joueurs en face. Tu étais d'accord avec ce profil qu'on te collait un petit peu de celui qui fait déjouer l'adversaire?
La tactique, c'est extrêmement important, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que même pour ensuite, pour avoir été avec Daniil, et donc quand il essaie de battre Alcaraz, Sinner, etc., la tactique est évidemment extrêmement importante. Si tu te trompes, ça va vite. Et en fait, on voit que pour ces joueurs-là, dont on ne parle jamais, les adaptations tactiques qu'ils ont eues, moi, à chaque fois avec Daniil, quand Daniil arrive avec un autre plan de jeu en Australie en finale, le changement derrière de Sinner à Miami, puis après, on essaie de rechanger pour Wim, mais il y a des ajustements dont on parle très peu, et c'est ce qui m'a toujours manqué dans l'analyse de mon sport de manière générale. Donc ce côté-là ne me dérange pas, mais par contre, ce qui m'a un peu gêné, c'était plus parfois amené sur ce côté, comme tu as dit, va faire déjouer un peu le truc de... je pensais toujours au farce et attrape, tu sais, tiens, il lui a fait un petit piège, il est tombé dedans. On parle de Federer, Nadal, machin, enfin s'il y avait...
Tu
vois ce que je veux dire, le niveau des mecs...
Donc, c'est plus péjoratif.
Donc en fait,
dire...
c'est un peu le jeu médiatique. Mais si tu veux, on prend un trait de ton une caractéristique, on va dire, de ton jeu, on la pousse, tu vois, tout en haut, comme si après tu savais faire que ça. Mais à un moment, faut jouer au tennis, quoi. Quand tu joues contre Roger, faut tenir la vitesse, faut tenir la cadence. Et donc parfois, c'était un peu, je trouve, réducteur.
Ouais.
Tu vois, de te dire, en gros, le seul truc qu'il fait, c'est il fait déjouer les mecs. On sait pas trop comment il fait. Mais ça serait déjà bien de s'y intéresser et on verrait que derrière, ça me demande quand même une certaine maîtrise tennistique.
Il y a des armes tennistiques.
Sinon, tu joues Roger, tu prends un et un et puis tu rentres à la maison.
Et il n'y a pas qu'une façon de jouer au tennis.
Tu lui mets pas un petit piège là au milieu du terrain et vas-y,
il va tomber.
Il y a un moment, on parle de Roger, donc faut quand même tenir le niveau.
Après, j'imagine que tu avais un plan bien précis, que ce soit Roger, Djoko, Rafa, ils n'avaient pas du tout les mêmes caractéristiques. Toi, tu étais donc surnommé le prof, l'hypnotiseur, le survivant quand tu bats Nadal à Madrid, la presse espagnole, El Solvivente, je ne sais plus comment il appelle ça.
C'est quand tu dis, tu vois, l'hypnotiseur, c'est...
Ouais,
enfin, regarde-moi.
Non, il y a tennis.
Justement, c'est là où je dis la tactique... que on veut mettre en place, il faut les moyens techniques de le faire. Voilà. Et à un moment donné, quand vous voulez jouer à une certaine vitesse dans une certaine zone contre un adversaire, et comme on l'a dit, des adversaires très différents, des droitiers, des gauchers, des attaquants, des contreurs, des défenseurs, etc., ça veut dire qu'en face, vous devez être capable d'amener toute une palette de réponses, on va dire, qui demande une maîtrise quand même à un moment donné tennistique. Et c'est là où moi, quand j'entendais parler de moi, si tu veux, c'était toujours « oui, tactiquement, c'est très fort, machin. Son tennis, ça manque d'armes, etc. » Et donc ça, tu dis toujours « ça manque d'armes, mais en attendant, j'arrive quand même à lutter face à 4 joueurs où eux, ils ne manquent pas d'armes, pour le coup, quand on les décrit. »
Il y a donc, en face aussi de la
donc, je dois quand même aussi en avoir quelques-unes, si tu veux, dans le jeu. Mais tant que t'es joueur, de toute façon, c'est jamais ton intérêt d'en parler. C'est pas à toi de parler de tes forces, tes faiblesses. Et c'est pour ça que je trouve que dans la lecture de notre sport, d'une manière générale, c'est vraiment tout un pan qui manque, en fait, qui n'est jamais discuté. On est toujours sur l'état d'esprit, le machin, la motivation, enfin, sur l'invisible, sur du mental, sur l'envie, sur des valeurs. Enfin, mettez le mot que vous voulez derrière. Et très peu sur du jeu. Qui joue où, quand, pourquoi. On en entend moins parler.
C'est un peu ce qui est venu chercher Daniil Medvedev. Tu l'as évoqué juste avant. Il est venu te chercher... pour collaborer avec lui aux côtés de Gilles Servara dans son équipe entre février 2024 et janvier 2025. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience au départ, je crois, il t'avait donné des profils de joueurs contre qui il avait du mal, contre qui il n'aimait pas jouer, pour que tu l'aides justement sur le côté tactique.
C'est un peu plus compliqué que ça. Au tout début, quand il m'a appelé, il cherchait juste quelqu'un pour faire des semaines parce que Gilles voulait en faire moins.
C'est parce ça, qu'avec pour alterner avec Gilles Servara.
Avec les Master 1000 de 10 jours, les tournées devenaient très longues, etc. Et il le faisait déjà avec Igor Andreev, parfois, qui venait, etc. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, au début, il voulait que je fasse 6-8 semaines, le premier coup de téléphone qui m'a passé. Et à la fin, on a fait 10 jours d'entraînement, il voulait que j'en fasse 30. Et je lui dis, bah non, ça tu sais que je peux pas. Donc on a fini par faire 17 ou 18, je crois, semaines ensemble, qui étaient très intéressantes, mais très difficiles aussi, parce qu'à ce moment-là, il est troisième mondial. Lui, ce qu'il veut, c'est bien évidemment essayer de regagner un grand chelem, redevenir, si possible, numéro un mondial, et, parce qu'on veut toujours avancer. Donc je sais que de l'extérieur, on va dire, mais les autres sont plus forts. Peut-être, mais lui, c'est son objectif. Il est trois. Son objectif, c'est pas de faire.
Trouver des solutions pour ça.
C'est d'essayer de gagner. Et puis finalement, il n'était pas si loin dès l'Australian Open. Mais c'est vrai que le contexte n'était pas simple, puisqu'on avait déjà Alcaraz qui était devant, Sinner qui était juste derrière au classement, mais qui venait de le battre sur ses six derniers matchs. Novak qui était encore devant. Des joueurs comme Zverev, etc., qui jouaient très bien, qui étaient à son niveau. Donc. Voilà, la mission n'était pas simple. Quand tu as des joueurs déjà plus jeunes, Sinner, Alcaraz, qui sont plus jeunes et qui sont déjà devant toi, machin, pour essayer de les rattraper à son âge, c'est difficile. Mais c'était un challenge qui était hyper intéressant, déjà parce qu'il comprend énormément de choses de ce qui se passe sur le terrain. Il est aussi, encore une fois, très fort. C'est-à-dire que dans sa technique à lui, pas sa technique, parce qu'on mélange souvent, mais on va dire dans sa gestuelle à lui, il fait rien comme tout le monde, mais il arrive, voilà, quand on lui dit finalement j'ai envie que tu joues ici à cette vitesse-là parce que derrière, etc., il trouve toujours un moyen de le faire.
C'est pas
à sa manière, mais il trouvera toujours un moyen. Et au final, c'est ce qui reste intéressant. Et donc, oui, effectivement, on pouvait y aller sur la tactique, mais c'est ce qui est toujours aussi un peu étrange, c'est que, encore une fois, parfois on est prisonnier de ce personnage. Tu sais, il a créé, on te dit, bah, il va lui parler tactique. Bah, en fait, ouais, mais Daniil, c'est pas là où il a le plus de marge de progression, la tactique. Et de la tactique, on en a fait, bien évidemment, mais beaucoup moins que ce que les gens pensent, parce que la plupart de ses problèmes, encore une fois, parfois sont techniques, et c'est ce qui l'empêche de réaliser, parce qu'il comprend ce qu'il doit faire, il voit le truc, et après, il faut savoir le faire. Donc, finir des attaques sur balle haute, etc., le service, c'était beaucoup de travail, finalement, technique, pour ensuite, tactiquement, parce que de toute façon, tactiquement, il comprenait énormément de choses. C'est pas là où je peux le développer de manière incroyable.
Mais il y avait cette volonté de relancer un peu la machine en ayant un regard extérieur aussi, un peu différent de celui qu'il pouvait avoir avec quelqu'un avec qui il travaille depuis longtemps comme Gilles Cervara.
Ben, il est de 96, il a 12 ans de moins que moi et je l'ai vu arriver sur le circuit. Moi, j'ai tout de suite senti qu'il serait très fort parce qu'on avait une approche et un style de jeu assez similaire, mais il avait un service en plus. Moi, j'aurais bien aimé avoir son service. J'aurais une carrière certainement différente avec une première balle. Mais ça me paraissait évident que dans l'équilibre de son jeu, un joueur capable d'avoir autant de points gratuits sur ses jeux de service à ce moment-là, en tout cas, même si ça a malheureusement baissé un peu avec le temps, et c'est aussi ce qui explique le fait qu'il recule un peu au classement. Mais il y avait certaines années où ses jeux de service, c'était 1, 2, 3, 4, tac. Et puis derrière, il faut travailler sur... Nous, quand on l'affronte, sur nos jeux de service, il faut travailler parce qu'il a rien, il a armé, il suffit d'un mauvais jeu et ça fait vite 6-4, 6-3. Et c'est, voilà. Donc c'est une logique que je comprends bien. Je savais qu'il arriverait très haut. Peut-être pas un, mais moi une année, je l'ai annoncé top 5, tout le monde m'a dit c'est enflammé. Il a fini 5e. Et il avait aussi dans son une force mentale. On va dire où c'est un joueur qui ne baisse pas dans les moments importants. Alors encore une fois, un peu plus cette année, beaucoup de matchs ont tourné contre lui cette année, beaucoup de matchs accrochés.
Oui.
Parce que c'est encore une fois, on commence à en perdre un, oui. Puis un deuxième, puis les autres y croient un peu plus, puis ils l'ont battu. Donc c'est fin. Mais d'une manière générale, moi sur la saison qu'on a fait ensemble, il a fini à la 5e place. Il a gagné il le gagne 8 fois ou 9 fois sur 10. Il a cette force intérieure où il est dur à battre, il est prêt à se raccrocher à tout et n'importe quoi pour rester dans le match. On l'a vu à l'US Open quand il est en danger face à Benjamin Bonzi. S'il faut arrêter le match pendant 10 minutes, il le fait et il revient. Donc voilà, il a énormément de force comme ça dans son jeu.
C'est dur à vivre ça quand on est dans la boxe, quand il rentre dans cette phase de...
La boxe, c'est vraiment le moment le plus désagréable avec lui parce qu'il est extrêmement agréable en dehors du court. Sur le terrain, c'est hyper facile de travailler avec lui, etc. Et après, quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l'intérieur qui est pas simple, donc c'est pas la partie agréable. Après, c'est toujours pareil. on a joué beaucoup, on le comprend. Enfin, on comprend ce qui se passe. Donc on sait bien que ça ne lui rend pas service et qu'il faudrait arriver à rester dedans. Et c'est pour ça que pour moi, le meilleur tournoi qu'il ait fait de l'année, quand on était ensemble, c'était à Wimbledon, parce que sa demi contre Alcaraz, on l'entend pas du match. C'est-à-dire qu'il est 100% concentré sur ce qu'il a à faire sur un match perdu. Ça s'en va un tout petit peu à la fin quand il comprend que là, ça risque de perdre. Il est à 2-7, 1-4-3 break. Mais voilà, quoi, tout le match, il est vraiment concentré dans ce truc-là. Mais donc voilà, on comprend ce qu'il fait, il le sort. Et en fait, à la fin du match, il sait que c'est lui. En fait, c'est sa manière de le faire. Bon, c'est dommage que ça sorte comme ça, mais c'est encore une fois... Enfin, je le savais avant de travailler avec lui. Donc.
Oui, c'était pas une surprise. T'as pas été pris
c'était en là avant, en fait. S'il avait changé d'entraîneur, tu vois, il aurait arrêté avec Gilles. Et je vois, peut-être que j'aurais dit, dès le début, on essaie d'arrêter ce truc-là. Ouais. Et moi, je suis rentré dans un fonctionnement qui était déjà là. Donc, en fait, la boxe, en fait, après, c'est général. Et donc, ça tombe dessus, là. Mais j'ai vu qu'il avait commencé très tôt avec Thomas... envoyer des pouces.
Déjà. oui. Donc oui,
le verrou a déjà sauté.
Oui, le fonctionnement continue. Bah justement, je suis obligée un peu de t'en parler parce qu'après la fin de cette collaboration, il y a eu des propos de Gilles Servara sur la collaboration que tu as eue avec eux, sur le fait qu'il n'y avait pas eu les effets escomptés. Il a dit, j'ai retenu cette phrase, la période où on a travaillé avec Gilles Simon a suscité chez Daniil des grésillements, des perturbations, où il a ensuite fallu rétablir les choses. Mais le rétablissement a été difficile. Toi, comment tu l'as reçu, cette analyse-là ?
C'est le fameux ménage à trois qui est un peu délicat.
Non, parce que justement, et encore plus sur la fin, on était de plus en plus alignés, mais moi, je vais les choses simplement. Déjà, c'est vrai que Daniil m'a appelé sans en parler à Gilles. Okay. Donc, ça veut dire que déjà, entre guillemets, si on parle de grésillement, bah, ça veut dire que certainement, Daniil, à un moment, il a dû identifier qu'il manquait peut-être quelque chose, qu'en tout cas, qu'il fallait déjà rajouter quelque chose. Et peut-être que déjà, pour Gilles, c'est une situation où on en avait parlé au début, qui n'est pas simple, parce que bah, c'est son entraîneur toujours, il l'a amené là-haut, il a été numéro un mondial, il a gagné un grand chelem. Donc, rien que la démarche de dire « je vais chercher quelqu'un d'autre », ça va le prendre, hein, ça ne me suffit plus. Donc c'est déjà une position qui est pas simple. Et moi j'ai essayé de rassurer Gilles dès le début en lui disant que, enfin, à aucun moment mon objectif c'était de travailler, parce que déjà encore une fois j'ai pas le temps. C'est-à-dire que je peux pas faire 45 semaines. En tout cas à ce moment-là je venais d'arrêter ma carrière, j'allais pas faire 45 semaines. Donc en aucun cas sa place ou son, enfin sa place est là. Moi je suis là pour essayer de lui amener. Encore une fois, en partant du postulat de départ, qui est que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je connais bien, que je comprends bien, je comprends sa logique de pourquoi il gagnait. Quand je l'affrontais, bah, du coup, j'arrivais, je l'avais battu trois fois sur les quatre matchs qu'on a joués, parce que je sais où appuyer, je connais ses faiblesses, etc.
Donc, et c'est ce qui l'intéressait chez
toi. Et aussi, voilà, et on avait parlé une fois ou deux de tactique, où il avait joué une fois, là, je lui avais expliqué... pour moi, comment il fallait jouer contre Novak pour lui, et puis il l'avait battu à Monte-Carlo, donc il s'en était rappelé, il s'est dit « Ah, ça m'avait aidé à ce moment-là, machin ». Donc il se dit « J'ai envie d'essayer, en fait, ce truc-là ». On a un joueur qui a beaucoup gagné, qui a 28 ans, encore une fois, donc qui a des convictions très fortes, donc c'est une bonne chose, c'est ce qui l'aide à être dur à battre, encore une fois, à être stable dans les moments importants, à toujours délivrer ce haut niveau-là. Mais du coup, c'est encore plus dur de changer. Quand tu sens que deux joueurs te sont passés devant et qu'il va falloir faire autre chose, c'est plus dur de changer. Et c'est mon rôle. Quand j'ai rien de, parce que, bah, pour Gilles, encore une fois, ce sont des fonctionnements. On l'a dit, même quand on parle des pouces, quand il lui fait ça à chaque point un truc, tu peux plus changer ça au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, il y a un moment donné, il faut essayer de changer. Et il y a quand même une urgence en termes de temps. Parce que c'est un joueur qui a, encore une fois, qui avait 28, qui était pas loin d'avoir un 29 à ce moment-là, avec des joueurs plus jeunes. Donc le changement, il faut qu'il arrive vite. Donc entre tout bouleversé, bah non, parce qu'il y a quand même, encore une fois, il y a un équilibre à trouver là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une mission qui était quand même très difficile. Et on a amélioré plein de choses qui se ressortaient beaucoup à l'entraînement. Mais après, il y a le match. Quand j'arrive à 4-4, 5-5, est-ce que je me sens capable de le faire pour gagner, ou est-ce que je gagne de ma manière où j'ai toujours gagné, qui est une zone dans laquelle je suis passé. Donc, tous les joueurs sont passés à un moment, tous ceux qui ont pu faire des carrières longues. Donc c'est une période dans tous les cas qui est difficile, mais qui est nécessaire. Voilà. Donc sinon, c'était le postulat là. Je dis pourquoi en fait je suis là, si c'est pour continuer de la même façon et que tu me dis je suis content d'être troisième mondial dans une bonne saison et huitième mondial, parce que c'est, on va dire, il va être entre 3 et 10, et on fait la même chose et juste un truc tactique, etc. C'est pas le même travail. Si tu me dis, je veux battre Alcaraz, Sinner pour regagner un grand chelem, bah là, il va falloir prendre des risques à un moment, parce que c'est pas avec. Oui. Et c'est ce qu'il a senti. Donc c'est là l'équilibre qui est difficile. Donc je comprends, parce que Gilles, en plus, il est beaucoup sur ces choses-là, sur l'énergie, dans l'invisible, etc., la connexion qu'il peut avoir avec lui. Donc forcément, ça vient brouiller. Mais je le prends pas du tout, connaissant du coup très bien Gilles, et en plus ce travail qu'on a fait, je le prends pas du tout de manière négative, comme si c'était juste nécessaire de le faire. Après, c'était encore une fois une mission de base.
Oui.
De base, quand tu commences 3 mondiales, ton objectif c'est de gagner avec encore une fois des joueurs comme Alcaraz, Sinner plus jeunes que toi, etc. La mission n'est pas simple.
En revanche, si c'était.
Elle est intéressante, mais elle n'est pas simple.
Ah bah non,
si c'était à refaire, ou plutôt si c'est à refaire, est-ce que tu accepterais une mission similaire ou justement tu as vu les côtés limitants d'être de coach? Est-ce que si tu redeviens coach d'un joueur, tu vas vouloir l'avoir à 100% pour pouvoir vraiment imprimer ta patte?
Alors, encore une fois, 100%, ça veut dire
45 semaines
sur le circuit, capable de vivre tous les jours. Peut-être qu'à un moment donné, je vais y arriver à nouveau. J'ai mes enfants qui grandissent, ils ont 15 ans, 12 ans. Peut-être que dans 3 ans, 4 ans, c'est un truc que je pourrais faire.
Pas tout de suite.
Pas encore là tout de suite.
Oui, là, après ta carrière, tu avais besoin de passer.
Et pour le ménage à trois, comme tu dis, y en a qui fonctionnent. On a Yannick Sinner, ça fonctionne
très bien. Fonctionne plutôt pas mal.
Il y en a eu d'autres, donc ça doit pouvoir se faire. Parfois, peut-être qu'il faut le faire dès le départ. Là, encore une fois, moi, j'étais vraiment dans une volonté de l'aider parce que c'est un joueur que j'adore et j'avais envie de.
Oui, puis t'arrives à un moment où ça va pas bien.
Voilà. En fait, si, ça allait bien parce qu'il était troisième mondial. Oui, mais d'un autre côté, lui,
on sentait qu'il y avait un
petit
glissement.
Lui, il sent qu'il sent juste qu'il a deux joueurs plus jeunes. Il a toujours Novak
qui
est devant.
Il a
deux joueurs plus jeunes que lui, plus forts que lui. Donc, il sent bien que ces mecs-là lui sont passés devant et que s'il continue, ça va juste. Voilà, c'est.
D'où le côté urgence.
C'est une lecture assez simple à avoir. Donc il faut changer. Non, et si tu veux, c'est la seule question moi que j'ai posée à Danine parce que je te donne un exemple. On a travaillé tout l'hiver. Sur son retour de prêt, parce que pour moi, il est capable de le faire. Et d'ailleurs, quand il a fait demi à Wimbledon, il a retourné de prêt quasiment tout le tournoi. Il n'y a qu'un joueur où, tactiquement, on a décidé de reculer, c'était contre Struff, ce qui sert quand même à 220 en première et à 210 en deuxième, et que ça lui donne du temps. Donc, c'est un match où, il a reculé. Mais si tu veux, il le faisait tous les jours, il le faisait très bien. Et on a eu une première déconnexion à l'US Open où il a passé son tournoi à retourner de loin. Ce qui ne se justifiait pas, on va dire, sur le plan tactique. C'était plus pour lui se sentir bien à l'intérieur. Et il sait qu'il allait battre les joueurs qu'il a battus. C'était Marozan, Cogoli, Borges, etc. En retournant loin, en lançant le rallye, etc. Mais moi, c'était mon analyse. Il ne prépare pas son quart
c'est
de finale contre Sinner.
Si tu le fais pas contre les joueurs.
C'est-à-dire, c'est comme facile, ça que moi, c'est comme ça. Et c'est là où on a. Mais lui, encore une fois, il a gagné l'US Open, il a fait finale à l'US Open, dans son logiciel à lui, ici, je peux gagner en retournant loin. Là, d'ailleurs, je l'ai fait et j'ai fait finale et je joue très bien. Donc, c'est pour ça que c'est pas simple. Ça vient pas de nulle part. Ce qu'il fait. Moi, je dis oui, mais en Australie, quand t'as failli battre, t'as retourné de près. À Wimbledon, t'étais de près. Et à chaque fois que t'as retourné loin, ça s'est mal passé. Parce que, c'est un joueur où si tu poses juste la balle au retour, après, tu voilà. Donc, pour le faire contre Sinner, c'est ce qu'a dit Sinner par rapport à Alcaraz. Si je veux être capable de poser ça contre Alcaraz, il faut que je m'entraîne à le faire contre les autres.
Quitte à ce qu'il y ait du
déchet.
Quitte
à ce que peut-être je perds. Et c'est extrêmement difficile. C'est très compliqué pour un joueur, moi le premier, et on est tous passés par cette situation, de se dire, ce mec-là, je ferai mon truc habituel, je gagne. Pourquoi j'irai prendre un risque pour préparer? C'est pas simple. Encore plus quand, pour un joueur comme Danine, ça fait maintenant les années en fait, donc c'est vraiment enregistré dans le, tu vois, dans le cerveau. Là où Sinner, il continue d'être, si
là
tu veux, en progression,
aussi.
Etc. Donc c'est encore une fois, c'est du très haut niveau, tu vois, c'est fin, tu vois, comme limite, ça se joue à pas grand chose. Il y a beaucoup d'envie. Dès qu'il y a un mauvais résultat, ça tombe dessus. Parce que moi, je suis quand même avec Daniel. Au début, il fait finale en Australie, finale à Indian Wells, demi à Miami. Finale contre Alcaraz, demi à Miami, on est huitième à Roland, ce qui, au final, par contre, sur Terre, c'est son
pas
niveau,
si mal,
même s'il
perd
sur deux. Enfin, c'est dans la moyenne haute de ses résultats de Roland des années, demi à Wimbledon. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'il n'a toujours pas gagné un tournoi, Et là, tu vois, c'est ça recule, tu dis, bah ouais, mais bon, putain, tu vois, c'est le jugement, tu vois.
C'est du long
le
terme.
Jugement, le jugement est sévère et tu finis l'année. Et pour moi, c'est surtout en fin d'année où ça commence à partir pour moi de cette US Open où il y a cette première, on va dire, séparation dans ce qu'il faudrait si tu veux faire. Et la seule question que je lui ai posée à la fin, c'est comment j'aurais pu te convaincre. Ouais. Plus de le faire, etc. Et il m'a dit, franchement, t'as déjà poussé fort.
C'est qu'il n'était pas prêt
si
à recevoir ce discours-là.
Si tu poussais encore plus fort, ça l'aurait pas fait. Mais moi, c'est la seule chose, parce que je suis persuadé de... Et je sais qu'il sait le faire. Il sait pas l'entraînement. Non, mais je sais que c'est en lui, au fond de lui, et que ça retient un moment. Mais
c'est pas le bon moment.
J'ai envie qu'il joue bien et qu'il y arrive. Parce que, encore une fois, il fait énormément d'efforts. Mes trucs, les journées, c'est du 8h à 22h avec... 1000 trucs dedans, donc envie qu'il y arrive, tu vois.
Il est vraiment bon en jeu vidéo, Daniil Medvedev ?
Il est bon.
Ok.
Mais à un jeu. Il joue à un jeu. Lequel ?
Il le mettra.
Rainbow Six.
Ouais.
Ça t'a donné envie de réitérer l'expérience avec un top joueur comme Daniil Medvedev, ou plutôt, comme tu avais pu l'évoquer dans ton livre, être plus dans l'encadrement de plus jeunes, en France notamment, où tu as souvent pointé du doigt le...
Honnêtement, tout m'intéresse.
Ok.
J'adore le tennis. Donc, au plus haut niveau, les plus jeunes, les garçons, les filles, c'est un terrain, une balle, où est-ce qu'on l'a ? Encore une fois, on joue où, quand ?
Dans ton livre, tu disais aussi qu'il y avait un truc qui ne t'intéressait vraiment pas, mais tu es un peu revenu, tu ne voulais surtout pas être consultant. Et là, au Rolex Paris Masters, on a commenté les qualifs. Ouais. Parce qu'il y a une solution, si tu n'as pas 45 semaines, tu en as une dizaine, tu viens commenter quelques tournois pour Eurosport.
C'est ce que fait Nico.
Parce qu'il a des choses à raconter, a priori, le garçon. Donc,
non, mais c'est un truc qui commence à titiller.
C'est le rôle qui te plaît pas.
Non, c'est pas ça. C'est qu'encore une fois, j'aime pas la manière dont c'est commenté habituellement.
Justement.
Bah, oui. Ouais, mais tu non, mais c'est le format. Encore une fois, parce que quand je dis ça, on va dire, je parle des commentateurs en particulier, etc. Alors que c'est pas le cas. C'est vraiment. C'est pour ça que j'ai voulu faire un truc un peu différent, ouais. et je m'en suis servi parce que, encore une fois, c'était deux jours, les qualifs de Bercy sur la chaîne YouTube de la Fédé. Donc, t'imagines que les gens qui regardent.
Mais c'est pas un média traditionnel, quoi.
Non, mais ce sont des passionnés de tennis. Enfin, sinon, tu regardes pas les qualifs. C'est ça que je veux dire. Quand tu commentes Roland sur France Télévisions, c'est comme quand moi je regarde pour la première fois du football américain pendant le Super Bowl, j'attends un niveau de commentaire qui va m'expliquer les règles. Voilà, j'attends pas des stratégies de on est sur un média qui se... Et donc la manière de commenter fait que tu es obligé de rester à ce niveau-là, et le format, le fait que finalement tu peux pas parler pendant les points. Tu peux pas parler pendant un changement de côté parce que c'est la pub. Donc en fait, tu peux jamais faire une. Donc en fait, t'as 20 secondes entre les points pour juste. Donc en fait, tu parles pas de tennis et tu parles pas de jeu. C'est pour ça que là, dans ce format-là, essayer d'y aller un petit peu plus sur la tactique avec déjà essayer de présenter. Lui, il va essayer de retourner de près, de loin. Il va essayer de lui choper le revers, le truc. On va essayer de parler de tennis. Mais tu peux pas toujours le faire.
Est-ce que le côté de commenter des qualifiés, donc des joueurs que tu tapais à l'époque, est-ce que ça te va mieux plutôt que d'aller commenter le numéro 1, numéro 2, numéro 10 mondial et d'avoir des leçons un peu à donner ? C'est pas un truc qui t'embête, ça ?
Non, parce que c'est pas une question de leçons, c'est une question d'essayer d'expliquer et d'amener un éclairage, justement, encore une fois, sur du jeu, autre que sur... Et c'est aussi pour ça, donc, qu'on reste souvent dans l'état d'esprit. Ah, aujourd'hui, il y a, aujourd'hui, il joue bien, ou il y a... Enfin, des trucs un peu généraux, si tu veux. Et moins parler finalement de tennis, des positions de retour des uns, des autres, de pourquoi ici, pourquoi là, quand est-ce qu'il ouvre le terrain, quand est-ce qu'il essaie de finir, pourquoi il fait l'amortissement. Parler de tennis, en fait. On parle très peu de tennis. On peut commenter un match de 4 heures en ayant très, très peu parlé de tennis.
Sur HBO Max, il n'y a pas de pub. Hein. On peut plus parler.
Non, mais c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je dis c'est rien que le format qui fait que...
Moins de carcan que la télé traditionnelle.
Et j'étais avec Olivier Jacquemin au commentaire. Et puis, tu vois, il a sa fiche de présentation. Et je dis, pour le deuxième jour, pourquoi on ne pourrait pas présenter ? Là, on a Luca Van Hache contre Comesania. Pourquoi dans la présentation, on ne présente pas déjà le profil des deux joueurs ? Tu as un joueur qui va essayer de prendre avec son courroie, qui va essayer de retourner loin, qui va essayer de l'enfermer. Pour juste donner un éclairage de ce qui va se passer. Après, qui va y arriver, qui va faire quoi, ça, on verra. Je n'aime pas trop les pronostics de celui qui va y arriver.
Ça peut totalement se faire, Gilles. On peut trouver une minute, deux minutes, trois minutes.
En disant que ça se fait.
Le recruteur.
Et donc, on est. Voilà.
S'il y avait un profil, toi, qui t'intéresserait aujourd'hui, garçon ou fille, à coacher, tu vois, tu disais sur la position de retour de Daniil Medvedev, c'est quelque chose que tu avais analysé depuis longtemps, que tu avais envie de le faire changer. Est-ce qu'il y a un joueur sur le circuit ou une joueuse où tu te dis, ah là, là-dessus, j'aimerais travailler avec lui sur ça ou...
Tous. En fait, moi, je vois les joueurs de tennis comme les gens dans la vie. C'est-à-dire qu'on a tous nos qualités, nos défauts. Donc, sur nos terrains, on a tous nos forces et nos faiblesses, même tout en haut. C'est juste que les limites sont plus fines, encore une fois, à les trouver. Alors que forcément, plus on va redescendre, et voire même en âge aussi, chez les jeunes, plus... Mais en fait, les chemins sont les mêmes. C'est juste qu'entre un niveau haut et un niveau bas, ben, ouais, Sinner, il a un niveau haut et un niveau bas. On navigue dans un truc qui est extrêmement constant. Et les autres, tu le vois un petit peu plus, mais encore une fois, le cheminement est le même. Et donc, chaque joueur aura ses forces, ses faiblesses, ses problèmes à régler, ses démons à affronter, etc., pour essayer d'être meilleur. Donc, la logique ne change pas. C'est juste les contraintes de jeu. Si tu vas chez les jeunes, peut-être les deux premiers coups vont être moins importants. En tout cas, déjà, le service retour, parce que ça va jouer beaucoup du fond du court. Parfois, ils sont très réguliers, ils n'arrivent pas à se faire un point gagnant. Donc, c'est d'autres, on va dire, stratégies pour essayer d'autres de mécaniques. Gagner. Tennis féminin aussi différent, avec le retour qui a l'impact, la couverture du terrain qui est moins bonne que chez les hommes. Donc, ça implique des choix tactiques, on va dire, différents.
Ça t'intéresse.
Mais au final,
à tous les
ça
niveaux.
Restera. Il faut jouer, encore une fois, une balle à tel endroit, à telle vitesse. Pourquoi ? Contre qui ? Et on retombera toujours sur la même trame générale.
T'as regardé beaucoup de tennis cette saison, tu nous l'as dit. Elle est terminée officiellement avec la Coupe Davis qui a eu lieu la semaine dernière. L'occasion de tirer un petit peu le bilan de la saison des Français. Thomas a fait un super petit sujet pour nous rappeler les faits d'armes de nos Bleus en 2025. On regarde et on en reparle juste après.
Oh là, le bilan de l'année des joueurs français. Il y a des choses à dire, dis donc. Il y a eu du bon, du très bon, du beaucoup moins bon. Tout commençait bien pourtant dès le mois de janvier. Deux titres dans la besace déjà. Le tout premier en carrière à Hong Kong pour Alexandre Müller à 27 ans. Le 13e pour le super-héros Gaël Monfils à Auckland, devenant le plus vieux joueur à s'imposer sur le circuit depuis 1977. La montre en pleine cure de jouvence, s'offrant son premier top 4 en grand chelem dans la foulée à Melbourne, avant d'être rattrapé par son corps d'ancien combattant. Müller, lui, confirmé à Rio. Un coup de clim face au Carioca Fonseca. Une nouvelle finale, la première pour lui en ATP 500. Quant à nos chefs de file, eh bien là aussi, ça démarrait sur de bonnes bases. En février, Humbert défendait son titre à Marseille. Tel Humbert, tel fils, Arthur lui chipait la place de numéro 1 français après trois quarts consécutifs en 1000 à Indian Wells, Miami, puis Monte Carlo, où le prince Arthur a même fait vaciller le roi Carlos. La suite, je vous le donne en mille, plus rien ou presque. Une fracture de fatigue au dos à Roland et puis rideau pour fils qui ne disputera que deux petits matchs cet été avant de tourner le dos définitivement à cette deuxième moitié de saison cauchemardesque. Pas beaucoup mieux pour Humbert, après un accident domestique qui l'a handicapé à la main pendant des semaines, c'est le dos en vrac qui pose également souci. En octobre pourtant, Hugo est de nouveau dans un bon délire. Finale à Stockholm, demi à Bâle et puis le dos encore une fois qui met fin à sa saison. Alors, en l'absence des tauliers, on se console avec nos seconds couteaux qui étaient, eux, bien aiguisés. Première finale sur le circuit pour Arthur Cazot à Kitzbühel, de même pour Valentin Royer en Chine. Moutet, lui, en a atteint deux des finales à Majorque et Almaty. Perdu, certes, mais Corentin finit l'année 35e mondiale, de loin la meilleure saison pour le plus créatif des joueurs français. Et que dire de notre collectionneur de cartes Pokémon préféré, Terence Atman, qui sort des qualifs à Cincinnati pour aller jusqu'en demi-finale d'un Masters 1000. Fou, on pensait avoir tout vu. Eh bien non, un trompe de fée peut en cacher un autre, celui d'Arthur Rinderknecht. Proche du burn-out en début d'année, Arthur retrouve la flamme cet été jusqu'à ce Masters 1000 hors du temps à Shanghai, où Rinder, surprise, surprend successivement 4 top 20, dont Zverev, Félix Auger-Aliassime et Medvedev, s'il vous plaît, rien que ça. Avant de retrouver en finale son cousin, 204e mondial. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'occasion est trop belle à 30 ans d'aller chercher un premier Masters 1000. Oui mais non, c'est le Monégasque qui ira au bout du rêve. Réunion de famille qui terminera dans les pleurs, tout ça. Mais le grand Arthur se consolera avec la place de numéro 1 français pour la deuxième fois de sa carrière en fin de saison. Mais pas avec la Coupe Davis, où on s'est fait avoir en quart comme des bleus. De créatif à récréatif, Il était temps que ça s'arrête. On tourne la page et on profite des fêtes.
Il y aura peut-être des cadeaux un peu plus sympas à pouvoir offrir à la copine et aux parents et à tout le monde à Noël.
Et à Arthur.
Et à Arthur, mais il sera pas là à Noël, mais à Arthur aussi, ouais, avec grand plaisir.
On les a retrouvés, les joueurs qui ont brillé en fin de saison, Tom, à la Coupe Davis.
C'était sympa cette Coupe Davis. Là, j'ai regardé la finale Italie-Espagne. C'est pas si mal. Hein. On dit qu'on a tué la Coupe Davis.
Pourquoi c'est pas si mal? Parce que l'Italie est à domicile.
Je suis pas sûr que ce soit que ça. Mais bon, en tous les cas, Berrettini et Coboli, ils vont pas bouder leur plaisir. Hein. Les deux potes romains, ils savourent.
Ça
on disait, il y a pas Musetti, il y a pas Sinner. Bon, bah, les deux autres derrière, ils sont pas mauvais non plus. Et bon, je pense que s'ils gagnent, c'est pas que parce qu'ils sont à domicile. Le tennis italien va très bien, hein. Il y a du monde. Après, il y a aussi du monde dans le tennis français. Hein. J'en ai parlé dans le sujet, il s'est passé pas mal de belles choses. Après, le bilan par rapport à 2024, si on tire comme ça un petit bilan, on avait 7 titres l'année dernière, dont 4 ATP 500. Cette année, on a 3 petits titres, 7 finales perdues, certes. Il y a ce parcours d'Atman à Cincinnati, il y a le parcours d'Arthur à Shanghai. Il y a aussi Manarino qui était là, qui est revenu dans le top 100, qui a fait de gros efforts, hein, qui n'est pas tout jeune, 37, 38 ans, Adrien. Il y a plein de choses à dire. Après, évidemment, ça tient beaucoup aussi aux problèmes physiques de nos deux chefs de file, Hugo Humbert et Arthur Fils, qui, s'ils avaient été en forme, auraient eu très probablement d'excellents résultats. Arthur était parti sur une très bonne lancée, donc ça biaise un tout petit peu le bilan. Mais bon, bah, on reste quand même malgré tout un peu sur notre faim, même si l'histoire d'Arthur Hinnerknecht et Valentin Vachereau a réveillé vraiment la flamme chez nous, parce que c'était passionnant. J'ai vu sur X que Gilles aussi avait tweeté pas mal sur ce tournoi parce que c'était absolument fou. Donc il y a des choses positives. Après, je reste un peu sur cette Coupe Davis, c'est pour ça que j'en parle.
C'est la dernière.
Il y a quart de finale, il y a un coup à jouer. Ça aurait pu être une excellente manière de finir l'année, de se faire un petit kiff pour finir. On va retenir forcément ce coup de Corentin Moutet, c'est pour ça que je dis de créatif à récréatif,
oui,
parce que là, c'est complètement interdit à ce niveau-là. On peut peut-être tenter un truc comme ça, hein, partout, 15A. Pas 6-5 dans le deuxième, 15A. Alors, interdit, impardonnable, après on utilise les mots qu'on veut. C'est très dommage parce que moi j'ai trouvé que la compétition, même si c'est pas la grande Coupe Davis des grandes années, il y a quand même le saladier d'argent qui est dans le coin, qui fait rêver. Et j'aurais bien vu Arthur, Corentin et puis l'équipe du double, Pierre Hugarbert, Ben Bonzi, faire un beau parcours. Ça pouvait totalement correspondre à leur caractéristiques et leur forme du moment. Donc, je trouve que c'est un peu dommage et ça ternit un tout petit peu le bilan de fin de saison.
Même, on reste là-dessus, mais...
Après, voilà. Gilles, qui connaît bien l'équipe de Coupe Davis, je ne sais pas comment il l'a vécu, ce quart de finale. Où,
on dit qu'il y a un coup à jouer contre les Belges.
Zizou Bergs a fait une super Coupe Davis, avec un super match contre Koboli ensuite en demi-finale.
Mougnard a fait une super Coupe Davis.
L'Espagne aussi, sans Alcaraz, s'en est bien sorti.
L'Espagne s'en est très, 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 très bien sorti. Mais c'est vrai qu'elle paraissait. On est forcément juste déçus parce qu'elle paraissait plus ouverte dans. On sait que t'as des Sinner en moins, des Alcaraz en moins, ben du coup ça devient jouable. Mais jouable, ça veut pas dire que tu vas la gagner derrière.
Mais non.
Parce qu'on sait bien que en fait ça a été encore une fois ça s'est vu cette année. Mais t'as ces deux-là et derrière t'as l'impression que tout le monde peut gagner, quoi. Et donc, on parle de Shanghai, on a quand même un joueur qui n'était même pas dans les qualifs. Et donc, le niveau en fait, donne l'impression que En fait, la grande force, pour expliquer ça, du Big Four qu'on avait, ou de certains, c'est le niveau bas, en fait, qui compte.
Ouais,
et donc, le niveau bas de Rafa, c'est « je perds pas ». Même le niveau à Roland, c'est « je perds pas ». C'est-à-dire que même dans le plus mauvais jour, ça se trouve, il y a des jours où il ne sentait rien, il avait mal, il y a machin... Il gagne, enfin, il a perdu une fois ou deux, mais je veux dire, c'est ça, ça ne perdait pas. Et comme en plus ils étaient nombreux, un accident, tu disais, si
il y a un accident,
tu as l'autre qui t'attend derrière, et donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents, si tu veux, pour que ça passe. Et aujourd'hui, c'est déjà ce qui est différent. C'est-à-dire que là, on a Alcaraz qui ne joue pas, on a Sinner qui a son accident, et d'un coup, on se dit, là, on a un vainqueur de Master 1000, alors on se dit, est-ce que Daniil, du coup, aurait pu le prendre à ce moment-là? Est-ce qu'un demi-nord, qui est souvent en embuscade, va s'embarquer? Non, tu vois, finalement, ils ont perdu. Félix, qui jouait bien aussi en fin de saison. Et donc, voilà, c'est ouvert. Mais comme on voit que tout le monde, peut, dans un bon jour, peut battre l'autre, etc., etc., tu arrives en Coupe Davis. Ils ne sont pas faciles à pronostiquer, quand même, les matchs. Et d'ailleurs, on voit que les matchs sont très accrochés. On voit aussi, encore une fois, l'avantage quand même de jouer à domicile. Parce que, bien sûr, il y a une grosse performance de Koboli qui a dû prendre plus d'émotions en un week-end
dans
que
dans... carrière.
Contre Zizoubert, Spémounard.
Mais parce qu'il est mis aussi dans des très bonnes conditions, déjà par le format, donc par un Berrettini qui l'amène à 1-0. Donc à chaque fois, il joue le match pour gagner, même pas pour perdre en plus. Ouais. Il est décisif pour lui, mais pas si ça perd. Il y a encore les joueurs de double derrière. Et il joue des joueurs qui sont aussi à sa portée au classement, que ce soit Zizoubert, que ce soit Raum et Munar. Et il les gagne, tu vois, accrochés, 7-5-3, 7-6, enfin 3-6, 7-6, 7-5, comme ça. Bon, ouais, fou, hein. Tu sens que c'est là, mais donc tu comprends que le public a son rôle à jouer aussi, tu vois, là-dedans. Et nous, là-dedans, on se dit, bah oui, on a une équipe qui a pas grand-chose à envier à ce qu'on va affronter, en fait. Donc c'est juste pour ça que tu es déçu quand ça gagne pas. Mais en sachant aussi que ça pouvait très bien perdre. Bah voilà, quoi. Et tu jouais la Belgique, tu savais que tu pouvais perdre aussi, parce que pour la raison que j'avais donnée avant.
On avait des joueurs qui étaient fatigués, Tom en a aussi parlé dans son sujet, pas les leaders, ça tu penses que ça a manqué aussi, nos numéros 1, 2 français, Hugo Humbert, Arthur Fils, qui sont pas là
Ça manque forcément, parce que quand ils jouaient bien en début de saison, ils étaient autour de la 15e place, je pense,
pas loin du top 10,
donc on était entre 10 et 15, et que si tu viens avec des joueurs, bah là t'es des joueurs plus forts encore sur le papier que les adversaires que tu affrontes. Mais je trouve qu'il manque... donc oui, sûr, tu peux gagner, mais on n'a pas joué des joueurs 10 et 15 en face non plus. Tu vois ce que je veux dire ? On a joué des joueurs qui étaient à notre classement. Mais voilà, demain, à chaque fois qu'il y a un match de Corentin contre Zizoubergs, c'est pas facile de savoir qui va gagner. Les niveaux sont proches, donc c'était pas le match à côté de là. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, que ce soit avec Arthur, c'est proche. Et demain, s'il joue au premier tour de l'Australian Open, pas si on est sûr et certain de qui va gagner, parce qu'encore une fois, il y a une hiérarchie qui est un petit peu moins stable.
De quoi ? Par rapport aux joueurs entre top 20 et top 60 ou
par rapport au moment où tu avais le Big Four, tu vois, truc, mais tu avais quand même dans les joueurs, en général, de 5 à 10, ça perdait pas beaucoup, ou ça perdait quasiment que...
Contre le Big Four.
Sur le Big
tu
Four,
trouves que le niveau du top 10 actuel est moins bon.
Quand t'allais prendre des Ferrer, des Del Potro, des Joe,
on
va dire qu'il y avait moins. T'avais moins ce truc-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends Arthur qui a fait une bonne fin de saison et qui finit autour de la 30e place. Et je suis pas surpris s'il bat Taylor Fritz et je suis pas surpris s'il perd sur Zizoubergs.
Ouais.
Tu vois, dans mon truc. Parce
que il y a
alors
une homogénéité du niveau.
J'aurais été surpris qu'il batte Joe, tu vois, peut-être. Et à l'inverse, nous, on était dans une version où derrière, c'était un peu moins dense, un peu moins fort, aussi entre 50 et 100. J'aurais été surpris qu'il perde contre des joueurs à la 100e place avec son niveau. Donc c'est là où je trouve que c'est plus homogène et donc ça explique ce. D'un côté, cette excitation quand on regarde, parce qu'à chaque tournoi, on se dit c'est ouvert.
Tout
et en plus, et comme on a plein de joueurs qui jouent bien, et ben à chaque fois, on en a un qui traverse ici. Ce qui est mieux cette année, je trouve, que sur les autres années, notamment sur les gros tournois. Parce qu'effectivement, ils avaient gagné, mais sur les gros tournois, on a enfin, dans des masterminds, un joueur, Terence, par exemple, qui traverse à Cincy. Arthur, et qui aurait pu traverser jusqu'au bout, parce que Terence, par contre, lui, il y avait Sinner en demi. Ouais. Mm-hmm. Tu vois, lui, il y a un moment, il y avait le mur, là, tu vois, les deux.
Ouais, lui, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir perdu.
Avec Shanghai, c'est pour ça que c'était génial, parce que ce n'est pas le tournoi lui-même qui était génial, ce n'est pas le format des Master 1000 qui est génial à suivre. Loin de là, ce qui était génial, c'est que très tôt, finalement, on s'est dit, ah, bah, il va y avoir un autre, que souvent, malheureusement, dans ces cas-là, nos joueurs ont perdu, et que je me dis, c'est un autre, mais ce n'est pas un Français, donc ça me saoule. Donc, voilà. Et que là, enfin, ça avançait pour nous, quoi, tu vois, dans le truc. Donc, c'est ça qui était sympa.
T'es fabuleux, mais il mène un 7-0 contre le cousin et bon, bah après l'histoire, j'ai trouvé au final qu'elle était encore plus belle parce qu'elle est tellement irréelle et improbable que je trouvais ça encore plus beau. Après, c'est vrai que pour Arthur, d'avoir une finale 2000 à 30 piges, il va falloir digérer ça d'une manière ou d'une autre, mais il a montré quand même de superbes choses pendant ce tournoi et puis plus globalement pendant tout l'été où il a regagné des matchs contre deux.
Il a eu un gros passage de Roland ou
Il fait un bon match où il est loin d'être ridicule contre Sinner. Il prend 3-7, certes, mais c'est pas si clair.
Non, mais il y a beaucoup de victoires dans les. Il y avait beaucoup de victoires contre des joueurs forts, tu vois, dans le top, ça commençait à être régulier. C'est-à-dire qu'à l'inverse, par exemple,
la de Terran,
qui tout d'un coup a fait sa demi et après qu'on avait moins vu avant et moins vu après. Donc tu dis, ah tiens, c'est tombé là. Donc c'est toujours intéressant. Ça veut dire que dans son niveau, il est capable d'aller chercher parce qu'il bat que des, il bat que des très bons joueurs. Donc ça veut dire qu'il est capable à ce niveau-là, mais il l'a pas tenu sur plus de, deux semaines, on va dire, sur le truc. Alors que Arthur l'a tenu sur déjà cinq mois, je dirais. Donc c'est plus encourageant. Ça donne l'impression que du coup c'est son niveau.
Oui.
Tu vois, sur le.
Et numéro un français.
Et pour la deuxième fois de sa carrière. Tu peux le tenir.
Ça permet de le rappeler parce que c'était passé un tout petit peu dans l'anonymat en 2022 quand il finit quelque chose comme 44e mondial. Oui. Là, tennis français, il est pas au mieux. Bah, Gilles arrêtait, c'est pour ça qu'on était dans le dur.
Ouais. Mais après un super match à Bercy contre Taylor Fritz.
Mais lui, il l'a battu, Taylor Fritz, il en parlait, pour finir en beauté à Bercy.
Ouais, et qui est là, et qui est quatrième, cinquième truc stable.
Ouais.
Depuis un moment, mais ça me donnait l'impression que c'est évidemment un super joueur. Je l'ai joué aussi, j'ai perdu, je l'ai battu, j'ai perdu. Bon, c'est un joueur qui est très fort, mais voilà, tu vois, Gaël l'a battu aussi en début d'année, je le vois. Arthur, la baston, beaucoup l'ont. Tu
première
vois,
fois qu'il bat un top 4 en Grand Chelem, Gaël. Donc ça montre quand même, pour qu'il batte un top 4 mondial à son. Oui, il avait 38 ans déjà.
Et les points, il ne les vole pas, Taylor. Hein. Donc s'il est là, c'est qu'il fait les résultats. C'est qu'en Grand Chelem, il était quand même là la plupart du temps.
Donc
il y a un moment, il est quand même régulier, forcément, puisqu'il est là. Mais ça donne l'impression d'être, pour nous, plus battable que quand nous, c'était Murray 4, souvent.
Voilà. Marika, Berdych. Pour revenir sur la Coupe Davis, il ne faut pas tout remettre en cause avec cette défaite en quart de finale face à une équipe qui était plus prenable peut-être que l'Italie de Sinner s'il avait été là. Il y avait eu une histoire autour du capitana, c'est Paul-Henri Mathieu qui a été choisi. On avait interrogé Joe Wilfried Tsonga là-dessus puisque lui, il avait été à un moment donné dans les possibles candidatures. Et il nous avait dit, à nos collègues d'Eurosport.fr, disons que j'ai pas compris, qu'on vienne me chercher pour me demander si j'étais intéressée par le poste, pour ensuite me dire que c'était pas possible en raison de soi-disant conflits d'intérêts. On sent qu'il y a eu un petit malaise sur la façon dont ça s'est fait, le choix de ce capitana en Coupe Davis. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé à ce moment-là? Parce que je crois aussi que c'est un poste qui peut t'intéresser.
Ouais, on était candidat et effectivement, il y a eu un process qui était ce qu'il a été. Il faut en mettre un pour la candidature, mais c'est vrai qu'au final, il y a eu beaucoup de personnes qui ont candidaté.
Ouais.
Alors que c'était pas forcément nécessaire si de base c'était pas
on estimait que
ça aurait fait juste gagner du temps à tout le monde voilà après ça c'est encore une fois c'est une candidature, chacun a envie de le faire, a envie d'amener des choses éventuellement un programme ou autre et puis il y a une décision qui tombe avec le président, avec Ivan sûrement dedans et qui décide quel est le meilleur, donc voilà. Donc moi c'est un truc qui m'intéressait beaucoup, j'avais deux positions qui m'intéressaient beaucoup dont celle-là pour essayer d'aider, mais parce que ça part en fait d'une analyse qui pour moi est là depuis maintenant, enfin de nombreuses années. Et finalement, quel que soit le capitaine qu'on ait eu, etc., et je remarque, comme j'en avais parlé dans mon livre, au niveau de la formation, etc., mais il y a quelque chose dans le logiciel, en fait, pour moi, qui ne fonctionne pas et qui fait que nos équipes de France, parce qu'elles ont changé de joueurs tout le temps, nous, quand on y était, etc., pour moi, ne performe jamais de manière optimum. C'est-à-dire, les 15 dernières années, j'ai très peu de souvenirs, j'ai pas de souvenirs d'exploits, c'est-à-dire de rencontres où on bat une équipe plus forte que la nôtre. Il y a quelques matchs où on gagne contre des équipes de notre niveau, mais je trouve que si c'est une équipe de notre niveau, ça devrait être une fois sur deux, et je pense qu'on perd plus souvent que ce qu'on gagne contre une équipe de notre niveau, et de temps en temps même, tu vois, une compte. Donc je dis qu'en gros, l'équipe de France, depuis, encore une fois, plusieurs années, avec des formats même différents, etc., sous-performe un petit peu.
Et pourquoi?
J'ai mon idée. C'est ce que je voulais essayer d'amener. Donc là, les résultats n'ont pas forcément démenti. Mais même là, mais même les années précédentes, si on regarde
les
années,
c'était à chaque fois frustrant.
Ça s'est joué au double, ça s'est joué à pas grand-chose à chaque fois. Mais c'est pour ça que je dis, là, beaucoup vont dire, c'est Corentin, il a raté son truc, etc. Mais quand ça commence à s'étaler sur beaucoup de saisons, et avec encore une fois des joueurs différents, et avec des capitaines différents,
oui,
et c'est pour ça que je faisais un lien avec ce que je disais dans la formation, avec des présidents de fédérations différents, des responsables du haut niveau différents, des DTN différents, etc. Quand à la fin, ta structure générale ne change pas, tu vois, dans le truc, c'est qu'il y a un problème pour moi qui est plus lié vraiment dans le logiciel et au système. Et après, tu as beau changer les personnes et les mettre, en fait, ça reproduit les mêmes erreurs. Donc c'est ça que j'ai essayé d'identifier depuis longtemps sur ces deux secteurs, parce que c'est les deux qui m'intéressent, parce que c'est beaucoup, encore une fois, de terrain, et que j'aime beaucoup le terrain. Et c'est ce que je voulais essayer d'amener. Et donc je serai certainement candidat si plus tard il y a à nouveau le truc. Je suis jamais pour pousser personne dehors. Donc moi, je suis jamais pour... Faites ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, j'ai un truc qui est assez clair que j'aimerais essayer de changer. Et puis j'espère qu'un jour, on me donnera la chance d'essayer de le faire... pour voir ce que ça donne, en tout cas, pour essayer en tout cas un truc un peu différent.
On voit que votre génération, à toi, à Richard Gasquet, à Joe Wilfried Tsonga, elle est dans la transmission. On voit que Richard a pris des responsabilités dans l'encadrement.
Oui, mais encore une fois, à chaque fois, il y aura un président, enfin ça change, il y a des élections, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est Gilles Moreton qui est pour un deuxième mandat, peut-être un troisième plus tard, etc. Des personnes qui changent, mais il faut, pour moi, ce n'est pas, encore une fois, les personnes, c'est certaines choses à changer qui font qu'encore une fois, l'équipe de France, on va dire, donc historiquement, et c'est comme ça qu'on vise, entre guillemets, personne, parce que vraiment, je vise personne, fait que les résultats, elles performent de temps en temps à son niveau et souvent à un chouille en dessous.
Oui, mais votre génération, on sent qu'il y a quand même...
Ouais. Enfin,
c'est bien d'aller. Il y a quand même des personnalités. L'expérience du plus haut niveau, vous avez été tous top 10.
Oui, mais quand on a eu avant.
Compétition, vous avez gagné.
Quand j'étais,
des
c'était
10.
Guy, il a eu une meilleure carrière que la mienne. Enfin, c'était pas le. Et d'ailleurs,
cette transmission, elle est
moi, nécessaire. C'était, quand je repensais en souvenir, je m'étais dit le souvenir que j'ai. Et moi, c'est pas une année en plus où ça a été très souriant pour moi, mais c'était justement cette année de 2010 où je me suis dit. On a battu l'Espagne avec Mika qui bat Verdasco, avec Gaël qui bat Ferrer. Derrière, tu avais l'Argentine avec Nalbandian, Monaco. Là, je me suis éteint. Et même la Serbie, ouais. Quand on perd, et en finale, que je joue ou non,
ça joue sur un cinquième match.
Novak, ouais. C'est Nenad Zimonjić qui était
en double,
etc. Viktor Troicki qui était 15e ou 20e à ce moment. Enfin, voilà. Il y avait combat et je me suis dit ouais c'est vrai qu'à ce moment-là quand même c'était pas mon cas moi personnellement dans l'équipe mais le reste de l'équipe performait à son niveau voire aller au-dessus. Au Mika il jouait mieux en Coupe Davis presque ce qu'il jouait sur le truc etc. Et après j'ai plus beaucoup d'exemples
ouais,
de ce cas où j'ai l'impression que souvent on a perdu contre l'équipe quand elles étaient plus fortes et que voilà, ou quand un Murray était en face de nous, on n'arrivait pas à passer. Quand un Cilic était en face de nous, on n'arrivait pas à passer. Et voilà, c'était ce truc-là. Et donc voilà, moi, comme ça, j'ai que ça à faire, je réfléchis.
Ouais. Est-ce que c'est à cette génération-là de prendre un peu le pouvoir dans l'encadrement, d'apporter son expérience, comme a pu le faire Guy Forget à l'époque avec la carrière qu'il a eue? Ça compte quand même ce qu'on a pu réussir au plus haut niveau à transmettre aux plus jeunes.
Encore une fois, prendre le pouvoir, c'est de la politique. Hein.
Oui, non, mais c'est une formule.
Moi, j'ai pas envie de partir en guerre. Ça, ouais. Non, mais j'ai pas envie de partir en guerre contre qui que ce soit. Moi, je suis dans un truc où j'ai envie d'aider. Quand je vois les jeunes, c'est juste que
aller faire sauter des verrous qui existent encore,
oui,
apparemment.
Oui, c'est pour ça que je propose. Mais je me bats contre personne. J'ai envie d'essayer de le faire. Je l'ai signalé à la fédération. J'ai envie d'essayer de faire ce truc-là. Donc, j'ai candidaté quand il y avait le poste qui était libre. C'est pour ça que je le referai. Peut-être que ça changera ou non. Et peut-être ça changera pas et ce sera encore autre chose, c'est pas de souci. Mais voilà, moi j'ai une idée, j'ai envie d'essayer de le faire. J'espère juste qu'un jour, on me donnera le pouvoir de le faire, mais je vais pas aller me battre.
Est-ce que tu penses vraiment que le rôle de capitaine de Coupe Davis, c'est vraiment ce rôle-là où on peut mettre en place une vision? Parce que bon, j'ai pas de boule de cristal, mais très probablement qu'on aura un jour un Richard, un Joe, un Gilles sur le banc de la Coupe Davis. Parce que
est-ce qu'on a le temps
Arnaud Clément, Escudé, Forget, Noah, enfin pour ne citer que. Donc il y a un moment, oui, on va faire appel aux mousquetaires, comme on les surnommait. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment dans ce rôle-là où tu peux... Enfin, visiblement, tu as une idée en tête, ça titille notre curiosité, mais est-ce que c'est pas plutôt en tant que directeur technique national ou dans une vision plutôt plus périphérique, plus globale, qu'on peut vraiment mettre une vision en place?
Parce que la Coupe Davis, ça reste assez dispersé, quoi.
C'est mon sentiment, mais j'ai l'impression que c'est plus un cadeau qu'on fait à un ancien joueur. Et quelque part, que tu mettes Joe, Gilles ou Richard, de toute façon, oui, les joueurs vont vouloir mouiller le maillot pour eux. Enfin,
mais c'est le reste de la saison.
Tu peux, oui et non, mais c'est, tu vois, si je faisais le parallèle avec Daniel, tu vois, quand tu es entraîné, c'est encore une fois, c'est quoi l'objectif?
Ouais.
Tu vois, c'est vrai qu'il y a une idée pour moi déjà qui était assez fausse. Mais qui est un souvenir tellement important, on va dire, dans l'histoire du tennis français. C'est quand même la victoire de Coupe Davis de 91 avec Yannick qui... moi, j'avais 7 ans, donc je ne m'en rappelle pas. Hein, donc je reprends juste ce narratif. Mais c'est comme ça, en tout cas, que ça m'a été raconté, je pense, vécu avec Yannick qui sublime, tu vois, ces joueurs qui vont chercher... Sampras, Agassi, si
oui,
tu veux,
Henri Lecomte et Guy Forget.
Et si tu veux, à chaque fois, c'est resté longtemps ce narratif-là de se dire il faudrait que le capitaine arrive à sublimer le joueur. Ça veut dire qu'en gros, si aujourd'hui je prends Arthur Hinderknecht qui est numéro 1, mais qui est 28e ou 25, entre 25 et 30 au classement, capitaine, en gros, sa mission, ça serait de le faire jouer 3 mondiales.
Ouais.
Et moi, j'étais contre ce truc-là. C'est-à-dire, ça a pu se produire, c'est très bien, mais moi, pour l'instant, du constat que j'ai fait, j'aimerais déjà qu'il joue 25e. C'est-à-dire que moi, déjà, en premier tour, je ne voudrais pas le gêner. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'il soit moins bon dans l'équipe que ce qu'il est en dehors quand il a son staff, son
truc. Il joue déjà son niveau.
À son niveau
En fait, c'est pour ça.
Contre des joueurs.
Parfois, on a perdu parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher Rafa sur terre à Cordoue.
Compliqué.
Non, mais là, effectivement,
mais
contre la Belgique.
Ce sont moins les défaites. Il y a des défaites que je trouve plus gênantes, on va dire, tu vois, que celle-là, ou voilà, peut-être celle-là, si tu veux, en fait partie, où tu dis, les Belges n'étaient pas plus forts, ils n'étaient pas beaucoup moins forts non plus, mais c'est pour ça que tu es déçu. Parce que tu dis, il y avait un truc à faire. Et derrière, il y avait encore un truc à faire, et derrière, il y avait encore un truc à faire. Donc, tu dis, voilà, c'est ça qui faudrait jouer déjà à ce truc-là. Mais après, dans l'implication, c'est que ça permet déjà, encore une fois, pour moi, c'est du terrain.
Ouais.
Tu peux les suivre à l'année, ils ont chacun leur structure.
Oui, parce qu'on voit un PHM dans le box des joueurs sur tous les tournois, donc il les supervise.
Tu peux essayer déjà, parce que c'est aussi dans ton intérêt de capitaine, et bien sûr, c'est ce que Polo essaie de faire, évidemment. Mais si t'es numéro 1, là, ils sont 30e et 45e, enfin, si les joueurs à l'année, ils sont plus forts, ils sont 10 et 15, déjà, t'as une meilleure équipe aussi. Donc, tu vois, l'impact que tu pourrais essayer d'avoir aussi dans leur vie au quotidien, de conseils que tu pourrais essayer de donner, de direction, de machin, pour ceux qui le veulent, bien évidemment, parce que t'imposes rien, t'es un truc. Mais ça pourrait aussi avoir une influence. Bien sûr, pas la même que si t'es en charge du centre national d'entraînement et que t'as tes jeunes à former de 15 ans à 20 ans. Tu vois, et que, au moment où, tu vois, bien évidemment. Mais ça reste un moyen aussi quand même de le faire. Et pour moi, encore une fois, surtout de passer certaines idées et d'essayer de changer ce logiciel parce que le lien entre les deux est plus proche que ce qu'on pense.
Ça fait plein
d'idées l'approche
qu'on a envie d'entendre, de voir mise en pratique. Je crois que Tom ne désespère pas de te faire venir commenter un jour, hein, mon avis.
J'ai pas entendu un nom ferme et définitif. Il faut juste trouver des plages où il peut parler.
Voilà. Radio Max en pub.
Faut enlever 2-3 pubs et on est bien.
Les profils tactiques en présentation des joueurs et on est bien.
C'est important.
Et là, ça pour la compréhension du match.
On est complètement d'accord. Même nous, ça nous aide à comprendre plein de choses.
Une petite pub pour le TOS, machin, et on revient. On a 3-4 minutes.
Alors,
pas sûr que ça suffise parce que il aura tellement de trucs à dire.
Non, c'est vraiment déjà une idée générale.
Puis on peut parler un peu sur le premier jeu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous épinglent sur les réseaux. Merci pour ça, d'ailleurs. Mais on essaie justement... Oui, on parle parfois pendant des points parce qu'on essaie de finir une phrase.
Voilà. C'est vrai que sinon,
on n'a pas toujours beaucoup de temps pour ça.
On peut développer les idées. Il y en aura d'autres, des tournois, des matchs à commenter toute la saison prochaine. C'était top de t'avoir, Gilles, avec nous pour faire un petit peu ce petit bilan. Tu as des projets là à venir des joueurs à aider. Il y a eu Moïse Kouamé à un moment donné.
Moïse, ça a été mal. Pour le coup, si j'avais pu faire.
Du côté très jeune,
plus
et espoir.
C'est exactement ce qu'il y a de plus intéressant à faire. On va dire un joueur aussi prometteur, aussi fort et qui sera fort quoi qu'il arrive. Mais justement, essayer de le guider dans la bonne direction. Après, par contre, ça, là, pour le coup, c'est un joueur qui demande
beaucoup de temps.
Ouais,
énormément,
ouais.
énormément de temps.
Ouais, parce qu'il est au tout début.
Et en plus, ça se passait super bien, et il progressait bien, mais après, bah, justement, plus ça se passe bien. En fait, c'est ça le problème, c'est que si ça se passe mal, bon, bah, ça se passe mal, ça s'arrête. Si ça se passe bien, bah, du coup, ça demande encore plus de temps et
ça
machin,
plus,
et
ouais.
Chacun arrive à sa limite, et puis du coup, voilà. Donc, j'avais refusé, au passage, deux fois d'entrer pour cette raison-là, justement. On a essayé quand même. Ouais, il sera très fort et c'était génial de le faire.
Oui,
mais ça m'a confirmé que je ne pouvais pas encore faire 45, un joueur
ouais,
encore.
Ouais.
Je le ferai peut-être plus tard.
Parce plein, que
c'est
le rôle
évidemment le plus intéressant, parce que dans la transmission, c'est ce qui permet de transmettre 100% de ce qu'on sait à un
ouais.
joueur. C'est vrai que quand on a plus de joueurs, on parlait en Coupe Davis, bah, ça dilue à chaque fois, plus le temps,
oui.
etc. Donc ça, c'est normal. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et pour l'instant.
Bon bah ici, il y a un temps partiel, alors j'ai le 6 mois.
Bah, il y a les enfants qui ont 15 et 12 ans.
Bah,
mais
oui,
bon,
ça va venir.
Il y a bientôt la crise d'adolescence. Et puis c'est bon, faut les laisser.
Non, mais ils voulaient me voir. Bientôt, ils voudront plus me voir.
Oui.
Bah, parce qu'on n'a pas beaucoup vu.
Quand on parle de
40-45
semaines, après, ils voudront plus me voir. 40-45 semaines, quand on a fait ça déjà pendant.
On voit qu'il y a de la lassitude chez les coachs pour tous.
Oui, mais même familialement, c'est difficile. C'est quelque chose que tu imposes au reste de ta famille.
Et donc sur les mêmes choses qu'en tant que joueur.
En plus, cette fois, pas pour toi, pour quelqu'un d'autre, donc pour ta famille.
Oui.
Quand tu dis, bah, quand tu fais pour faire un machin, mais alors si tu le fais, enfin, c'est fou que. Un Darren Cahill qui avait annoncé arrêter ouais. avec Sinner, bon, finalement,
ouais.
visiblement,
la tentation était
il
trop
a,
grande,
il
ça
a,
marchait
ouais.
trop bien.
Ouais. Bah, oui, ça doit être vraiment un combat permanent entre ouais, la famille et puis en même temps,
ah,
des superbes émotions. Bon.
C'est des longues semaines sur le
Évident.
Circuit. On va prendre une petite pause.
Tu vis pour quelqu'un d'autre.
Et oui.
Donc, c'est
oui, quand c'est
différent.
Pour toi, c'est déjà parfois lourd à porter, mais quand ouais. c'est en plus pour quelqu'un d'autre. Et bah, chaque chose en son temps.
Ouais.
Nous aussi, Retour Gagnant, on va faire une petite pause avant de revenir plus
mais
fort.
Mais il n'y en a pas un petit dernier quand même. Il y a
2025.
Pas
il y aura peut-être une petite surprise. Vous avez eu une
quiz
l'année
pas,
dernière.
On n'en parle pas,
bah, c'est pas confirmé.
Ah
mais
oui, c'est vrai que c'est pas encore.
Normalement, il y aura un quiz. L'année dernière, vous aviez bien aimé le quiz Retour Gagnant. Normalement, il aura à nouveau lieu cette année avec du beau monde. Hein.
Il y aura le Big Four, je crois. Hein. C'est
ouais.
ça,
une équipe journaliste contre une équipe consultant. On va voir qui est le plus fort.
Gilles, il ne doit pas être mal au quiz, à mon avis. Il doit avoir une bonne connaissance. Il suit au
ça dépend. Ça dépend de quelle époque.
Ouais.
Bah, tu pourras regarder l'émission et essayer de trouver les réponses. Tu nous feras le bilan. Merci en tout cas d'être venu. C'était top. Merci, Tom.
Bah, merci, Gilles.
Merci à vous deux.
C'était excellent.
Et à bientôt dans Retour Gagnant, peut-être dans le quiz. Et puis sinon, bah, on se voit en 2026. Bye bye.